Les autorités guinéennes sont revenues sur une rumeur qui enfle depuis quelques jours dans le pays. En effet, dans une interview le samedi 18 juin, le colonel Sadiba Koulibaly, le chef d'état-major général des armées, avait rejeté les rumeurs qui parlaient de l'implantation d'une base étrangère militaire en Guinée. Pour lui, il s'agit d'un projet qui n'aurait jamais lieu tout au long de la transition et sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. C'est aux Guinéens et seulement aux Guinéens de défendre la Guinée. Je voudrais dire ici solennellement au nom du chef de l'État, le président de la transition, chef suprême des armées, qu'il n'a jamais été donc question et il ne sera jamais question de création ou d'implantation d'une base étrangère en Guinée pendant cette transition sous le leadership du président de la transition. Quel que cela soit clair pour tous et chacun, jamais à aucun moment de cette transition il n'a été question de la création d'une base étrangère en Guinée. Et le président de la transition pense que c'est aux Guinéens et seulement aux Guinéens de défendre la Guinée. Et cette conception, cette pensée du président est antérieure au 5 septembre. Donc c'est une rumeur totalement infondée qui ne repose sur rien, a notamment déclaré Sadiba Koulibaly. Il s'agirait d'une simple publication du chef d'état-major général des armées françaises à l'issue d'une rencontre, comme il l'a fait d'ailleurs avec plusieurs autres délégations. Il a voulu partager ça, et cela signifie en rien, en aucune façon, une quelconque volonté d'implantation de la création d'une base étrangère sur le territoire de la Guinée. Que le peuple de Guinée vaque librement à ses occupations et qu'il se prémunisse, et ce n'est pas la première campagne d'intoxication venant de la France. Il y en aura plusieurs autres, mais le peuple reste serein. C'est pourquoi le président de la transition m'a envoyé pour dire au peuple de Guinée que c'est faux, c'est infondé, et ça n'a été pensé, et ça ne sera jamais pensé, donc, au cours de cette transition. Conakry a pris la décision également de ne pas tourner le dos à Bamako. Notons que l'éclaircissement apporté par ce dernier donc intervient dans un contexte où le Mali fait l'objet de sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et face à cette situation, Conakry a pris la décision de ne pas tourner le dos à Bamako il y a quelques mois déjà. Et au cours du mois de janvier 2022, la Guinée avait dit donc ne pas avoir été associée à la décision de la CEDEAO du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Par conséquent, donc le CNRD donc réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste, avait ajouté dans un communiqué à Aminata Diallo, le porte-parole du Comité national de rassemblement pour le développement. Tout comme le peuple sénégalais l'avait fait auparavant, le peuple guinéen a également montré son soutien à Bamako en organisant une marche de Conakry à Bamako. Parti de Conakry le 15 mai dernier pour soutenir les Maliens et appeler à la fédération des deux États, donc Guinée-Mali, les jeunes marcheurs Conakry-Bamako sont arrivés à Bamako ce samedi 18 juin. Et pendant ce parcours de 34 jours, ils n'ont observé que 3 jours de repos. Arrivés à Sigiri le 3 juin, ils ont pris la direction de Niani, l'ancienne capitale de l'empire Manding, située dans la préfecture de Mandiana pour rallier le Mali. Pourquoi choisir cette trajectoire qui est très longue alors qu'ils pouvaient donc passer par Kourémalé ? Mikinde Dalinde Sankon, donc le coordinateur du collectif, se justifie. On a choisi ce chemin pour toucher un maximum de personnes sur le territoire malien. Et ce chemin nous a permis de passer par Niani, l'ancienne capitale de l'empire Manding. Et nous avons passé la nuit dans l'un des vestibules de Sundiata, donc Keita, et c'est très symbolique de passer par ce chemin. Un trajet qui leur a permis de traverser donc sur le territoire malien des villes de Yanfolila, Bougouni, Sanankoroba, et dans ce périple, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé aux marcheurs panafricains. Des réceptions honorées par la présence des autorités locales. Des marches et des propos des autorités de pays voisins du Mali qui mettent à mal non seulement la communauté occidentale, mais également les instances comme la CEDEAO. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Dialassagou, Dianweli, Deguessagou et environ dans le cercle de Bankass ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le bilan cumulé fait état de 132 civils froidement tués par les éléments de la Katiba du Massina de Amadou Koufa, dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. En ces douloureuses circonstances, le gouvernement présente les condoléances les plus émues de la nation aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur les attaques et exactions perpétrées contre de paisibles populations et rassure que toutes les dispositions seront prises pour rechercher et traduire les auteurs de ces actes criminels devant la justice. Le gouvernement appelle à la communion donc des cœurs et des esprits des Maliens face à cette épreuve et réitère que la sécurité et la protection des personnes et leurs biens restent sa priorité absolue. En conséquence, les vaillantes forces de défense et de sécurité en première ligne dans la lutte contre le terrorisme continueront avec détermination la dynamique de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Malico et de l'opération Keletigui en veillant au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Quelques heures après le massacre, donc de plus de 100 civils par des hommes armés terroristes à Bankass, plus précisément donc dans la commune de Dialassagou, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de la remise des clés des tracteurs subventionnés aux producteurs agricoles à Samanko hier, s'est incliné devant la mémoire des victimes, une occasion pour lui de rassurer que ce crime ne restera pas impuni. Tout d'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de nos populations qui ont été victimes de l'attaque barbare survenue dans la commune de Dialassagou et nous promettons que cet acte barbare inqualifiable ne restera pas impuni, a-t-il déclaré, avant d'entrer dans le sujet du jour. Et survenu dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juin, donc cette attaque se présente comme la plus désastreuse contre la population civile depuis le début de la transition. Et cela, des sources donc locales, donc le bilan fait état de plus de 100 morts et des personnes enlevées. Et beaucoup de biens matériels ont été également emportés par les assaillants. À chaque retrait de Barkhane, une nouvelle tuerie apparaît. Lors de son retrait de la base militaire de Gossi, la découverte de charniers maladroitement donc attribués aux forces armées maliennes par les médias mainstream avait déjà mis le pays en deuil. Et maintenant que Barkhane s'est retiré de Ménaka, cette nouvelle tuerie fait son apparition. Est-ce une coïncidence ? Quoi qu'il en soit, les forces armées maliennes ont renforcé leur position dans la région donc de Ménaka depuis quelques jours suite à la rétrocession du camp Barkhane de la localité aux forces armées maliennes. L'autre objectif important du renforcement des positions FAMA est lié à une vaste opération des personnes et de leurs biens contre les terroristes de Daesh dans la zone frontalière entre le Mali et le Niger. De plus, selon les médias français, de nouveaux Russes donc auraient posé le pied dans le nord-est du Mali. Plusieurs dizaines, selon eux, de soldats russes sont arrivés mercredi à Ménaka. Ils ont pris place sur la base militaire rétrocédée lundi à l'armée malienne par les Français et ces derniers s'attendent à une nouvelle tentative de manipulation de l'information pour leur nuire, mais c'est une nouvelle tuerie de la part des groupes terroristes qui a eu lieu à la place. Les médias français disent donc, par ces articles, que la base de Ménaka est de nouveau espionné par Barkhane. Avant son départ de la base avancée de Ménaka lundi, avant-dernière étape du départ de Barkhane du pays, beaucoup d'analystes s'attendaient à une nouvelle exaction de la part de Paris dans la région de Ménaka. En effet, on voyait de plus en plus que les groupes terroristes gagnaient du terrain dans cette région et Presse TV Afrique avait annoncé également une nouvelle tuerie, mais dans la région de Ménaka et non à Bankass. La base de Ménaka se situe donc dans la région dite des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, dans laquelle les militaires français se sont longtemps donc investis dans le renforcement des groupes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda, visant donc la zone des trois frontières. Le résultat de ce retrait se termine par l'assassinat de plus d'une centaine de civils maliens par les terroristes dans la région du centre, une opération visiblement planifiée depuis plusieurs semaines déjà. Le nouvel émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, n'a pas perdu de temps avant de relancer des conflits en Éthiopie, qui, selon ses propos sous-entendus, est l'une de ses cibles principales dans la région. Plus de 200 civils auraient été tués dans la zone déchirée par la guerre de l'Ouest de Wolega, dans l'état régional d'Oromia, donc dans ce que la Commission éthiopienne des droits de l'homme a déclaré être lié à des affrontements entre les forces de sécurité gouvernementale et l'armée de libération d'Oromo. La tuerie du samedi, donc à Tole Kebele, Gimbi Wareda, de la zone ouest de Wolega, est le plus meurtrier de ces derniers mois. Abdul Seyd Tahir, un habitant de la région qui a échappé aux violences, a déclaré donc qu'il avait compté 230 corps et je crains que ce ne soit l'attaque la plus meurtrière contre des civils que nous ayons vue de notre vivant. Nous les enterrons dans des fosses communes et nous continuons à collecter des corps. Des unités de l'armée fédérale sont maintenant arrivées, mais nous craignons que les attaques ne se poursuivent si elles partent, a déclaré Abdul Seyed. Le HRC a déclaré dimanche que les meurtres avaient eu lieu à la suite d'affrontements entre les forces gouvernementales et les militants de l'armée de libération d'Oromo et a déclaré que l'attaque du groupe armé contre des civils avait résulté en de graves pertes civiles, des blessures et des dommages matériels. Les résidents appellent toujours à une assistance immédiate en raison de problèmes de sécurité dans la région. Mais dans un communiqué publié samedi, le gouvernement de l'État régional d'Oromia a blâmé les rebelles et a promis que les forces de sécurité fédérales et régionales continueront de sévir contre le groupe armé qui a été désigné comme groupe terroriste par le Parlement éthiopien. Cependant, Oda Tarbi, le porte-parole international d'Ola, a déclaré dans une page Twitter vérifier que les meurtres et la destruction de biens qui se sont produits à Tole dans le district de Gimbi ont été commis par la milice Gachana Sirna, créée par l'État d'Oromia lui-même. Une enquête de plusieurs mois, Paradis Standard, donc publiée en février de cette année, avait révélé le sort de centaines de membres civils de la communauté Amara de diverses parties de la zone de Wolega qui ont fui des attaques soutenues et ont recherché donc refuge à Addis Abeba. Le rapport a également révélé que des centaines d'autres ont été obligés de déménager dans la zone d'Arsi, dans l'état régional d'Oromia. Dans les médias mainstream, cette tuerie est attribuée à l'armée éthiopienne, tout comme avec le Mali et les 200 terroristes tués par l'armée malienne. Les médias mainstream n'avaient pas arrêté d'accuser les FAMA d'avoir tué des civils et non des terroristes. La donne est différente, mais le principe reste le même, remettre en cause les avancées de l'armée nationale, donc éthiopienne, contre les rebelles. RFI a annoncé que depuis samedi, une vidéo montrant des soldats de l'armée nationale et des forces Amara tirés sur des jeunes hommes de la communauté Oromo choque sur les réseaux sociaux éthiopiens. La vidéo aurait montré le meurtre extrajudiciaire par les forces du gouvernement d'une trentaine de personnes que les forces du gouvernement disent être des membres de l'armée de la libération d'Oromo. La commission donc réitère les recommandations et l'appelle à une enquête plus approfondie sur cet incident, mais aussi des autres violations des droits de l'homme et du droit humanitaire. Dans un communiqué, certaines ONG disent avoir été informées que des habitants, donc de Gambela, étaient victimes de diverses violations des droits humains de la part des forces régionales de sécurité, dont des exécutions sommaires. Pourtant, sur la toile, la communauté occidentale garde le silence, contrairement à d'autres États comme la République islamique d'Iran. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a condamné l'attaque par des groupes d'insurgés armés contre la région d'Oromia en Éthiopie et a exprimé ses condoléances au gouvernement éthiopien, au peuple et aux survivants. Selon le groupe donc, de politique étrangère de l'agence de presse Fars, Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a exprimé sa profonde tristesse et sa sympathie pour le meurtre d'une centaine d'Éthiopiens donc, lors d'une attaque par les rebelles armés dans la région d'Oromia et a fermement condamné l'attaque. Au moins 260 personnes ont été tuées et des centaines de blessés lors d'une attaque par des hommes armés dans la région d'Oromia dans l'ouest de l'Éthiopie. Ce massacre marque l'un des jours les plus sanglants de l'Éthiopie. Les habitants donc, qui ont survécu au massacre ont rapporté que les assaillants avaient massacré des personnes et enterré leurs corps dans des fosses communes. L'arrivée du nouvel émissaire américain pour la Corne de l'Afrique marque déjà son entrée dans la région. L'une des cibles principales du nouvel émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, c'était bien l'Éthiopie et l'Érythrée. Il n'a pas perdu de temps, il débarque et de nouvelles tueries s'organisent en Éthiopie et sont par la même occasion attribuées aux forces armées éthiopiennes. Addis-Abeba continue de tenir tête aux puissances coloniales comme les États-Unis et le peuple éthiopien reste uni et fidèle au pouvoir en place et à l'armée éthiopienne, ce qui veut dire que ces scénarios ne fonctionnent pas. L'ancien émissaire américain David Satterfield en avait déjà fait les frais et il n'a pas fait long feu.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé son profond regret et la profonde sympathie de la République islamique d'Iran pour le meurtre d'un certain nombre d'Éthiopiens lors d'une attaque par des groupes d'insurgés armés dans la région d'Urmia. Saïd Khatibzadeh, tout en condamnant fermement l'attaque terroriste, a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple éthiopien ainsi qu'aux survivants de l'attaque terroriste. Au moins 260 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors d'une attaque par des hommes armés dans la région d'Urmia, dans l'ouest de l'Éthiopie. Ce massacre marque l'un des jours les plus sanglants en Éthiopie. Les habitants qui ont survécu au massacre ont rapporté que les assaillants avaient massacré des personnes et enterré leurs corps dans des fosses communes. Les ministres nigériens, algériens et nigérians de l'énergie ont tenu ce lundi 20 juin à Abuja une deuxième réunion tripartite sur le projet du gazoduc transsaharien, TSGP. La rencontre s'est soldée, selon un communiqué du ministère algérien de l'énergie et des mines, par un accord dans le but de relancer ce méga chantier d'une longueur de plus de 4000 km. Celui-ci a porté sur la mise en place d'un groupe de travail pour actualiser l'étude de faisabilité de ce projet. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Arkab a confirmé l'approbation des décisions de la précédente réunion tenue à Niamey, au Niger, le 16 février 2022, qui avait défini une feuille de route pour réaliser ce chantier. Pour le ministre algérien, ce gazoduc est un exemple de la volonté de ces trois pays de mettre en place une infrastructure régionale d'envergure internationale. Avec l'inauguration de sa base logistique le 8 juin, le port camerounais en eau profonde de Kirby est en passe de devenir un point de connexion entre les flux maritimes de la région du golfe de Guinée. Située dans la région du sud du pays, cette plateforme multimodale est devenue un maillon essentiel de la chaîne au service du développement de la nouvelle zone industrialo-portuaire et de la sous-région, a expliqué le directeur régional de l'armateur Bolloré Transport et Logistics, Serge Anguiro. Grâce à ses 16 mètres de tirant d'eau capable d'accueillir des navires de cinquième génération, le port de Kirby est devenu une zone d'accostage commercialement plus attrayante que d'autres ports de la zone connaissant des problèmes d'ensablement du chenal. Le port de Kirby, construit par CHEC, est exploité conjointement par la Chine, la France et le Cameroun. La deuxième phase devrait être livrée en 2023. C'est la fin du statut de réfugié ivoirien dès jeudi 30 juin 2022, annoncé lundi 20 juin à Abidjan, la ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, promettant un accompagnement aux 13 000 réfugiés ivoiriens encore à l'étranger. Madame Camara a proclamé la mise en œuvre de la clause de cessation du statut de réfugié ivoirien lors de la célébration officielle de la 22e journée mondiale du réfugié autour du thème « Toute personne a droit à la sécurité », doublé de l'annonce de la fin du statut de réfugié ivoirien. Cette cérémonie marque d'un son indélébile la fin d'un processus et confirme au monde entier la stabilité retrouvée de la Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré en présence du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ICER, Filippo Grandi, du président Alassane Ouattara et du vice-président Konemediet Thiemoko.